La semaine passée, nous avons pris un peu de temps pour regarder le premier chapitre du livre de Jonas. Jonas a reçu l'appel de Dieu d'aller prêcher dans la grande ville de Ninive. Dieu voulait que les Ninivites se repentent de la méchanceté et il a choisi Jonas comme porte-parole. C'était un travail que Jonas ne voulait pas faire et il a décidé de s'enfuir de Dieu. Au lieu d'aller vers l'est, il est parti dans l'autre sens. Il a pris un bateau pour aller en Espagne, l'autre bout du monde connu. Pendant le voyage, Jonas s'est endormi au fond du bateau, mais Dieu a envoyé une grande tempête pour secouer son prophète en fuite. À cause de la tempête, le bateau menaçait de couler et tous les marins eurent peur. Ils ont réveillé Jonas et découvert qu'ils s'enfuyaient. Il cherchait à s'échapper de Dieu qui a fait la terre et la mer. Après une discussion avec les marins, Jonas les a conseillés de lui jeter par-dessus bord. S'il faisait cela, la tempête s'apaiserait et il pourrait continuer le voyage en paix. Donc après avoir quand même hésité un tout petit peu, les marins ont fait ce que Jonas a suggéré. Et c'est à ce point-là que nous allons reprendre l'histoire de Jonas, en lisant Jonas 2, le verset 1 jusqu'à 3. Voilà, Jonas, chapitre 2, à partir du verset 1. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Il dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. » Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux m'ont entouré la tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, les barres de la terre m'ont fermé pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la force, éternelle, mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'éternel, et ma prière est parvenue jusque toi, dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles, et loin de la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai fait. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parle au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva, et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Quand nous lisons les aventures du prophète Jonas, il y a une chose que nous remarquons. Jonas ne s'est jamais excusé pour ce qu'il a fait. Nous voyons que Jonas n'a jamais dit « Dieu, je suis désolé, pardonne-moi ». Mais sa repentance se voit premièrement dans sa confession au marin, dans le chapitre 1, dans la manière dont il prie Dieu du ventre du grand poisson, deuxièmement, et troisièmement, par le fait que une fois sorti du poisson, Jonas va à Ninive. La repentance, plutôt que d'être une simple parole, est une attitude suivie toujours par une action. Et dans le chemin de la repentance, nous pouvons noter que Jonas avait un rôle à jouer. Il y a des choses qu'il a faites, mais comme une parenthèse autour du chapitre 2, nous voyons l'intervention de Dieu. C'est Dieu qui a prévu le grand poisson qui a avalé Jonas dans le premier verset du chapitre 2, et c'est Dieu qui a parlé au poisson pour libérer Jonas dans le dernier verset du même chapitre. Dieu est toujours maître de la situation. Quand nous avons péché, il y a des choses que nous pouvons, peut-être que nous devons faire pour commencer à mettre les choses en ordre, mais Dieu est toujours là. C'est son pardon que nous cherchons, c'est lui qui nous restaure. C'est même lui qui nous donne le désir de nous repentir. Comme Jonas s'en est rendu compte, le salut vient de l'Éternel, du début jusqu'à la fin. C'est Dieu qui nous rétablit, et tout cela par sa grâce dans son amour. Voyons maintenant les trois pas que Jonas a fait. Nous voyons les deux premières à travers sa prière, il a exprimé dans le ventre du poisson. L'autre pas se trouve au début du chapitre 3. Quand j'étais beaucoup plus jeune, le film Les Dents de la Mer a passé à la télé. Vous le connaissez? Vous l'avez regardé? Moi, j'avais peut-être 10, 11 ans. J'étais un peu trop jeune. Et je l'avais regardé avec ma sœur. Et en fait, je ne sais pas où étaient mes parents, parce que s'ils avaient su la suite, ils auraient interdit ce film-là. Et je dois admettre que ce film m'a effrayé jusqu'au point que pendant un bon moment, je n'aimais même pas prendre mon bain. Ça me faisait tellement peur. Et aller nager était totalement hors de question. Aujourd'hui, ça ne me pose pas un problème. Et bien que j'aime nager, maintenant, je préfère avoir mes pieds sur terre. Donc, imaginez un instant Jonas. En fait, il était en train de parcourir la mer Méditerranée, et apparemment, il y a des requins dans cette mer-là. J'ai lu ça l'autre jour. Jonas, dans la mer. Quand il était jeté par-dessus bord, j'imagine qu'il a pensé, comment est-ce que je vais m'en sortir? Il était jeté dans la mer après sa confession du fait qu'il était en train de s'enfuir de Dieu. Il s'est attendu certainement à mourir. Et il a accepté la situation telle qu'elle était. On ne voit aucune plainte contre Dieu à cause de la situation, mais il n'a pas voulu mourir, pas à cet instant, pas de cette manière. Et Jonas a crié vers Dieu. Dans sa prière, il décrit la terreur qu'il avait, la détresse, le séjour des morts, les courants d'eau qui l'ont environné, l'abîme qui l'a enveloppé, les roseaux qui ont entouré sa tête, le fait qu'il a coulé jusqu'aux racines des montagnes, et il a crié vers Dieu à cause de sa détresse. Son péché l'a mené à la mort. Ça, il savait bien. Il recevait quelque part le juste salaire de son péché, comme Romains 6, 23 nous le dit. C'est contre Dieu que Jonas a péché, et c'est vers lui qu'il se tourne pour le secours. Il crie vers Dieu, et Dieu l'entend. Quand nous voyons les déchets provoqués par notre péché, quand nous nous rendons compte que notre désobéissance est grave, et quand la gravité de notre situation de pécheur commence à peser sur nous, comme l'eau a pressé sur Jonas, nous pouvons toujours crier vers Dieu. Et en effet, quand nous devenons conscients de notre péché, notre seul recours, c'est de crier à Dieu. Il n'y a personne d'autre qui peut nous aider. C'est vers lui que nous nous tournons pour le secours, parce que c'est seulement lui qui peut nous sauver et nous pardonner. Dans Romains 10, 13, il est écrit, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » C'est une promesse et c'est le début de la repentance. Quand nous parlons de l'histoire de Jonas, la partie que les gens trouvent la plus difficile à avaler, c'est l'idée que Jonas a été avalé à son tour par un grand poisson. Comment est-ce possible qu'un homme soit avalé sans mourir par un poisson? On se demande aussi, c'était quel type de poisson? Beaucoup pensent que le poisson était une baleine, mais en fait la Bible ne précise pas, c'est juste un grand poisson. Après des recherches sur Internet, j'ai trouvé quelques récits des hommes qui ont apparemment été avalés par des baleines. Mais pour finir, pas mal de ces histoires sont des fraudes. Et de celles qui sont vraies, celui qui a été avalé a toujours été recraché quelques minutes plus tard, parfois vivant, souvent mort. Cependant, il me semble que c'est dans la nature de Dieu de faire des miracles et de faire ce qu'il faut pour accomplir ses desseins. Nous ne pouvons pas discréditer l'histoire de Jonas simplement parce qu'il n'existe pas de récit convaincant et moderne d'un homme avalé par un poisson. En plus, dans le Nouveau Testament, la véracité de l'histoire de Jonas est présumée. Dans Matthieu 12, il est écrit, « Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Et puis dans Luc 11, « Car de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, De même, le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. Jésus lui-même se comparait à Jonas. On ne fait pas cela pour un mythe. Donc, aussi incroyable que cela semble être, nous devons affirmer que Jonas a été avalé par un grand poisson. Mais ce qui est important, c'est ce qui s'est passé après. Jonas a prié, et sa prière est une prière de remerciement pour ce que Dieu a fait. Contre toute attente, il est vivant. C'est pourquoi dans cette prière, nous voyons un sentiment d'espérance. Je verrai encore ton saint temple. Je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. Il parle de l'avenir. Il parle avec les yeux fixés sur ce qui est de nouveau maintenant possible. Jonas était encore dans le ventre du poisson, pas dans un environnement très agréable, mais il avait une espérance. Et ces deux déclarations nous montrent quelque chose de plus. Jonas veut mettre les choses en ordre. Ce prophète qui s'est éloigné de la présence de Dieu veut maintenant revoir le Saint-Temple de son Dieu. Il veut être dans la présence de Dieu encore une fois. Donc celui qui dormait pendant que les marins ont prié veut maintenant offrir des sacrifices à son Dieu. J'ai dit tout à l'heure que la repentance est une attitude et une action. Voici l'attitude de la repentance. Dans le ventre du poisson, il ne peut ni voir le temple, ni offrir des sacrifices, mais il va faire les deux, il en est sûr. C'est sa nouvelle intention, même si avant, son intention était de s'enfuir le plus loin possible de Dieu. Nous voyons un vrai changement de cœur chez Jonas, tout en reconnaissant son état dans le ventre du poisson, chassé loin du regard de Dieu. Donc la repentance implique toujours un changement dans l'attitude et dans le cœur. Si vous avez des enfants, ou si vous avez l'occasion d'observer ceux des autres, vous allez voir sans doute quelque chose d'intéressant. Les enfants ont une capacité incroyable pour ignorer les ordres de leurs parents. Désolé. Mais imaginez un instant. Maman est là avec le petit Jean-Luc et la petite Amélie. Ils grimpent sur le fauteuil et tout à coup, Amélie est par terre, pleurant. Jean-Luc l'a poussée. Maman intervient. Jean-Luc, qu'est-ce que tu as fait? Il ne faut pas faire ça à ta petite sœur. Viens lui demander pardon. Jean-Luc s'approche d'Amélie. Pardon, Amélie. Elle lui donne un petit bisou. Maman est contente. Tout semble être réglé et en ordre. Et puis, bouf. Il a poussé encore une fois. Amélie s'est mise à pleurer et Jean-Luc est envoyé au coin. Si je pêche et puis je m'excuse, qu'est-ce qui se passe si je commets le même péché tout de suite après? Cela serait une anomalie qui indiquerait qu'aucun changement n'a eu lieu, aucun changement du cœur, aucun changement d'attitude chez moi. Quand je me repens, je change mon attitude envers Dieu. Je me détourne de mon attitude pécheresse vers une attitude d'obéissance. En effet, dans mon cœur, je change de direction. Je renonce à mon péché. Mais l'histoire ne s'arrête pas à ce point-là, comme la repentance ne s'arrête pas au changement de l'attitude. Dieu entend la prière de Jonas et il parle au poisson qui vomit Jonas sur la terre. Dieu a agi, il a fait sa part. Maintenant, c'est à Jonas de faire quelque chose. Il faut qu'il agisse suite à sa prière pour montrer la nature de sa repentance. Et Jonas se trouve sur la plage. Il est un peu ébouriffé, il dégage une odeur de poisson assez particulière. Il a bien besoin d'un bain. Mais quels sont ses sentiments? Je suis vivant, je vois le ciel, je respire de l'air frais, plus ou moins. Mais quoi maintenant? Je vais remplir mes vœux. Et après? Oh, je ne sais pas. Puis Jonas entend une voix. Jonas, Jonas, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et j'imagine que Jonas, à ce point-là, était un peu partagé à propos de cet ordre. Son attitude envers Dieu a bien changé, mais son attitude envers Ninive, c'était toujours le même. Nous voyons plus tard qu'il s'est fâché contre Dieu parce que Dieu a sauvé la ville de Ninive après qu'il a prêché dans la ville. Les choses ne sont pas passées comme il voulait. En fait, les choses se sont passées justement comme il a prévu. Mais donc, fallait-il s'enfuir encore une fois? Je pense pas. Jonas ne veut pas se trouver dans le même péché encore une fois. Sa relation avec Dieu est réparée, son attitude envers lui est changée. L'autre du jour sera l'obéissance. Et Jonas obéit. Sa répondance la conduit à l'action. Jonas va à Ninive pour déclarer la parole de Dieu. Il y prêche le message de Dieu selon l'ordre de Dieu. Il fait ce qu'il aurait dû faire tout au début de l'histoire. Et peut-être que cela, c'est la clé. Je ferai ce que j'aurais dû faire au début. C'est à chacun de reconnaître son péché et de reconnaître ce qu'il fallait faire. Je peux vous donner des exemples, mais pour chacun, cela serait différent. Nous avons des péchés auxquels nous sommes, je dirais, plus sensibles. Nous avons la tendance de parcourir le même chemin. Souvent, nous retombons dans le même péché. Et parfois, nous ajoutons quelque chose de nouveau. Mais pour finir, si nous avons la moindre sensibilité, nous sommes tous plus ou moins à la fois excédés et découragés par rapport à notre péché. Cependant, nous continuons à faire les mêmes choses. Et après qu'on nous disons, bon, pour le, je sais pas combien de fois, oh Seigneur, encore une fois, je l'ai fait encore une fois. Nous pouvons nous arrêter, réfléchir et nous demander qu'est-ce que j'aurais dû faire au lieu de ce que j'ai fait. Et puis, faisons-le. Mettons notre repentance en action. J'ai dit tout à l'heure que peut-être Jonas était un peu partagé à propos du deuxième appel de Dieu. Il s'est rendu compte qu'il s'est échoué dans sa mission. Est-ce que Dieu veut réellement que je lui serve? Il aurait pu démissionner à ce point-là. Je ne peux pas répondre, Seigneur, c'est trop tard pour moi, ne me fais pas confiance. Il aurait pu faire cela, mais en fait, il n'a pas fait cela. Parce que notre Dieu est le Dieu de la seconde chance. Pour le pécheur repentant, il y a toujours une deuxième chance, toujours. Pour le pécheur repentant, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant Dieu est loin de lui son péché. Pour paraphraser le verset 12 du psaume 103. Pour le pécheur repentant, le passé est vraiment le passé, pardonné et oublié par Dieu. Il y aura peut-être encore des conséquences à vivre, mais un pécheur pardonné peut être sûr et certain que son péché ne compte plus aux yeux de Dieu. Nous pouvons encore servir Dieu. Il n'y a pas besoin de démissionner en disant « Je ne veux rien maintenant ». À cause de mon péché. Un péché pardonné est oublié par Dieu. Le problème, c'est que nos péchés passés peuvent agir comme un frein sur nos activités futures pour Dieu. Mais faisons comme Jonas. Reprenons la mission, l'appel de Dieu, et continuons bien attachés à notre Dieu qui nous a pardonnés. Pour terminer, une citation. Et je n'ai pas noté qui l'a dit? C'est quelqu'un. Jésus ne regarde jamais à ce qu'un homme a été ou ce qu'il est, mais à ce qu'il va être. Et cela est juste. Le sculpteur ne regarde pas à ce que la pierre a été ou à ce qu'elle est, mais à ce qu'il en sortit. Une figure qui prend vie. Donc, le chemin de la repentance pour Jonas a compris trois choses. Il a crié vers Dieu. Il avait besoin d'être sauvé de son propre péché par celui contre lequel il a péché. Il s'est reconsacré à Dieu. Il a changé d'attitude envers Dieu. Et pour finir, il a fait quelque chose. Il a mis en action sa repentance. Donc, suivant son exemple, quand, pas simplement si, mais quand nous tombons dans le péché. Prions ensemble.